Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre très importante série « L'ascension du vainqueur et son triomphe ». Le titre pour notre 31e étude de cette série sera la ruine et le jugement du monde. La ruine et le jugement du monde. Premièrement, nous avons l'impression que tout cela est un déroulement presque utopique. Mais c'est l'absolue vérité, réalité. L'imperfection du royaume messianique, malheureusement, était et sera plutôt une réalité. Il y aura évidemment tout à fait une merveilleuse période, presque, on pourrait dire, sans péché, mais pas totalement sans que le péché puisse avoir lieu. En dépit de toute sa gloire, le millénium n'est pas la pleine consommation, car la mort y existe encore. Le péché y est encore possible avec la malédiction qui s'y rattache. Ésaïe 65, verset 20. La justice règne sur la terre, mais elle n'y habite pas en tous comme sur la nouvelle terre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 13. Et Apocalypse, chapitre 21, verset 3. Donc, la désobéissance d'un groupe de peuple est donc encore possible. Zacharie, chapitre 14, verset 17 et 18. Mais la responsabilité, elle est accrue puisque Satan est en lié et incapable de séduire. L'homme, n'étant plus sollicité ni poussé carrément au péché, il sera aisé de ne pas commettre le péché. Cela explique la sévérité des jugements du royaume. Il n'y aura plus de tolérance ou patience divine envers le mal. Saint Matthieu 5, verset 45, chapitre 13, verset 30, Romains 3, verset 25, Romains 9, verset 22, et deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9 et 15. Il fera l'objet d'un jugement immédiat et sans exception. Je répète, cela explique la sévérité des jugements du royaume. Il n'y aura plus de tolérance ou patience divine envers le mal. Il fera l'objet d'un jugement absolument immédiat et sans exception. Les nations qui refuseront de suivre Jésus-Christ, le roi des rois, le maître, c'est avec un sceptre de fer qu'il les pètera. Et ceux qui résistent, il les mettra en pièces comme un vase de potier. Psaume chapitre 2, versets 8 et 9. Apocalypse, chapitre 19, verset 15, chapitre 12, verset 5, chapitre 2, verset 26 et 27. Et les méchants seront tués par le souffle de sa bouche. Ésaïe, chapitre 11, verset 4. obéissance ou destruction. Telle est l'alternative pour tous absolument égale, et cela dès le début du royaume. Tout faux prophète sera mis à mort. Zacharie, chapitre 13, verset 3. Tout peuple qui n'adore pas sera privé de pluie. Zacharie, chapitre 14, verset 17 à 19. Et toute nation rebelle sera exterminée. Michée, chapitre 5, verset 7 et 8. Deuxièmement, nous avons l'ultime rébellion. Mais à la fin, en effet, à la fin, Satan doit être délié et il séduira les nations une fois encore. Apocalypse chapitre 20, verset 3, verset 7 et 8. La justice de Dieu ne permettra pas que les injustes soient exterminés avant que leur injustice ait atteint sa maturité. Apocalypse chapitre 14 verset 15. C'est une règle divine qui sera appliquée même dans le cas de Satan. Même les nations ayant connu le royaume de gloire doivent avoir l'occasion de décider librement d'elles-mêmes. Personne ne servira le Seigneur involontairement dans la nouvelle création. De plus, la preuve doit être faite de l'incapacité même de la plus brillante époque de l'histoire humaine à briser l'obstacle destination innée du pécheur. Et voici le résultat de ce test. Toute la gloire et toutes les bénédictions de ces longues années du millénium aboutiront à la plus grande rébellion des peuples. De tous les bouts de la terre, ils se rassembleront contre Jérusalem, semblable au sable de la mer sous le haut commandement de Gog et Magog. Apocalypse, chapitre 20, versets 8 et 9. Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Et la Genèse, chapitre 10, versets 1 et 2. C'est l'ultime rébellion de l'histoire. C'est la dernière guerre religieuse, le dernier effort convulsif de la révolte de l'homme contre le Très-Haut. Maintenant, le péché atteint sa pleine mesure. L'humanité rejette même la seigneurie visible de la divinité. Elle méprise les plus grandes de ses bénédictions par la plus dédaigneuse ingratitude, foulant aux pieds sa gloire personnelle. À la direction de Dieu, elle préfère l'insinuation séductrice de Satan. Plutôt que l'unité et la paix, elle choisit la conspiration et l'insécurité. Au Messie céleste, elle préfère son ennemi mortel, le diable. Une telle attitude ne peut entraîner qu'une seule réponse, c'est-à-dire la destruction et la ruine. En effet, aussi avant même que la révolte se change en combat, le feu descend du ciel et consume les rebelles. Le diable, qui les a subjugués et jetés dans l'étang de feu et de soufre, où sont déjà l'Antichrist et le faux prophète. Apocalypse chapitre 20, versets 9 et 10. Dans l'histoire de la manifestation divine, nous avons signalé trois étapes principales correspondant aux trois personnes divines. C'est l'âge de l'esprit, l'âge du règne visible du Fils du millénium et le royaume éternel de Dieu le Père. L'action et la manifestation de la triunité satanique s'expriment aussi en trois étapes qui peuvent y être comparées. Satan travaille tout d'abord d'une manière voilée, se présentant comme un ange de lumière. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, et agissant comme mystère d'iniquité. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. L'esprit de l'Antichrist, selon 1 Jean, 1er épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 3, après avoir plongé l'humanité dans la destruction par les convoitises mauvaises, les religions trompeuses, mensonges et impostures, il se manifestera à la fin des temps à travers son envoyé, l'Antichrist. Enfin, lorsque cet impie sera renversé et précipité dans l'étang de feu, il apparaîtra lui-même après les 1000 ans pour sa dernière tentative, se révélant alors tel qu'il est, d'une manière directe. Il est un fait que tout cela peut nous paraître incompréhensible. Pour sa perte, et oui, ce sera pour sa perte, car il sera enfin abattu et jeté lui aussi dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. À l'apparition du Fils, tentative, l'Antéchrist, il est donc jugé. Il est jugé à la manifestation du Père, c'est-à-dire c'est l'anti-Dieu qui est jugé, c'est le dragon. La seconde personne de la Trinité divine triomphe de la seconde personne de la Trinité démoniaque. Et la première personne divine de la première personne infernale. Il y a donc, dans l'histoire de l'univers, un parallélisme, un développement simultané, de deux forces ennemies. Ces deux forces développent, qui manifeste évidemment le royaume des ténèbres pour son jugement, le règne céleste pour son triomphe. Je répète ceci parce que c'est important. À l'apparition du Fils, le dragon est jugé, on a compris. La seconde personne de la Trinité divine triomphe à la seconde personne de la Trinité démoniaque. Et la première personne divine, elle triomphe donc de la première personne infernale. Il y a donc, dans l'histoire de l'univers, un parallélisme, un développement simultané de deux forces ennemies, développant qui manifeste le royaume des ténèbres pour son jugement. Son jugement sera fait. Et le règne céleste sera donc triomphant. Troisièmement, nous avons la destruction du monde. Oui, en effet, la structure universelle disparaît dans les flammes. Ce sera la destruction de la terre. Destruction de la terre, pas seulement, mais de tout ce qui entoure la terre, des étoiles, destruction du cosmos. Les cieux et la terre sont ébranlés. Notez Agée, chapitre 2, verset 6, et Hébreux, chapitre 12, verset 26 à 28. Ils disparaissent comme une fumée, périssent comme un vêtement. Ésaïe 51, verset 6. La terre se brise. Ésaïe 24, verset 19. Les étoiles se dissolvent. Ésaïe 34, verset 4. Les cieux sont roulés ensemble comme un parchemin. Psaume 102, verset 27. Les éléments se désintègrent et se dissolvent. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 7 et le verset 12. L'univers passe avec fracas. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 10. Et tous les impies sont consumés, consumés comme par une fournaise ardente. Malachie, chapitre 4, verset 1. Telle est donc la réponse du Tout-Puissant à l'abjecte rébellion de ses créatures, à la plus infernale révolte de son univers. Ainsi se révèle la juste colère divine contre toute la sphère de péché, qu'elle soit terrestre ou céleste. Mais de ce jugement par le feu émerge un monde nouveau, un monde glorieux. Le but de Dieu n'est pas l'annihilation, mais c'est la transformation du monde. Hébreux chapitre 1 verset 12. Non pas la dissolution et la désolation, mais la transfiguration en gloire. Des cendres de ce monde détruit, Saint Matthieu 24 verset 35, sortiront dans une gloire nouvelle, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Notez Apocalypse chapitre 21 verset 1 et deuxième épître de Pierre chapitre 3 verset 13. Et quatrièmement, nous avons le jugement final. Il est dit: et puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, et cela d'après ce qui est écrit dans ces livres. Apocalypse, chapitre 20, versets 11 et 12. Il faut bien comprendre que cela a été écrit dans un temps où tous nos gadgets d'aujourd'hui n'ont même pas existé dans l'imagination. Et vous comprendrez bien que Dieu a des possibilités encore beaucoup, beaucoup plus sophistiquées que nous n'aurons même jamais. Et donc, ce sera tout autre chose que des livres dans le sens que nous le comprenons. Quand nous prenons un dictionnaire biblique ou une référence quelconque dans notre librairie. Premièrement, nous avons le trône. Ça, c'est le grand trône blanc, blanc par sa majesté, blanc par sa sainteté. La terre, fruit, on peut dire, vraiment. Mais, en ce moment-là, malheureusement, cette terre, à cause du péché des hommes, et parce qu'elle fut souillée du sang du Fils de Dieu, elle sera détruite. Et les cieux fuient. Pourquoi? Mais à cause du péché des esprits et de la méchanceté des chefs et des dominations dont ils furent la résidence. Notez Éphésiens chapitre 6 verset 12 et chapitre 2 verset 2. Deuxièmement, nous avons là le juge. Car le Père a remis tout jugement à son Fils. Saint Jean chapitre 5 verset 22 et 27. C'est donc Jésus-Christ, le Messie, lui, l'homme que le Très-Haut a établi pour juger la terre avec justice. Acte 17 verset 31. Le juste juge établi par Dieu sur tous les vivants et les morts. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, et Acte, chapitre 10, verset 42. Ajoutez la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 5, et dont les jugements s'exercent conformément à la volonté du Père. Saint Jean, chapitre 5, verset 30, et chapitre 8, verset 16. Troisièmement, il y a le critérium, c'est la sainte parole de Dieu. Celui qui me rejette, c'est ce qui est dit dans Saint Jean chapitre 12, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. La parole que j'ai annoncée sera son juge. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Saint Jean 12, verset 48. Quatrièmement, il y a les personnes jugées. Ces personnes sont les morts, tous grands et petits, de tout pays et de toute époque, à l'exception de ceux qui sont ressuscités au commencement et en vue du millénium, les saints de l'Ancien Testament, les membres de l'Église glorifiée, les croyants de la tribulation ont connu leur résurrection avant l'établissement du règne messianique. Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 5. Ils ont comparu devant le tribunal de Christ. Deux Corinthiens, chapitre 5 et le verset 10. Donc je répète, ils ont comparu devant le tribunal de Christ et ont vécu 1000 ans déjà, dans un corps spirituel qui est glorifié. Cinquièmement, il y a la sévérité du jugement. Les autres doivent maintenant paraître devant le tribunal suprême. Leurs œuvres, leurs actions, leurs paroles, leurs pensées, ce qu'ils ont fait ou omis de faire, tout cela est consigné dans des livres. Apocalypse 20, verset 12. Ils doivent rendre compte de toute parole inutile. Saint Matthieu, chapitre 12, verset 36 et 37. Je me considère de faire partie de ceux-là. Sans le pardon de Jésus-Christ, je serais également perdu. Donc, voyez-vous, même à un âge certain, on doit encore faire attention à ce qu'on dit et comment on dit les choses. Alors toutes choses seront manifestées, même les plus secrètes de l'âme. Hébreux chapitre 4, verset 13. Car le juge sondera d'un seul regard, même les, on peut dire, les recoins les plus intimes de chacun de nous. Apocalypse chapitre 1, verset 14, et Daniel chapitre 7, verset 9 et 10. Ceux qui contestent vraiment seront réduits au silence. Job chapitre 9, verset 3, et Saint Matthieu chapitre 22, verset 12. Et tous les vantards et tous les hauteurs, les hautains, car il y en a de ceux-là, seront brisés, selon Jude, verset 15. Alors apparaîtra pitoyable la faiblesse profonde de tous les grands et de tous les héros de l'histoire. Psaume 2, verset 1 à 5. Toute propre justice apparaîtra dans sa véritable lumière, tel un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Toute illusion sur soi-même se changera en amer désappointement. Tous devront se plier. Romains 14, verset 11. Et Philippiens, chapitre 2, verset 10. Et de reconnaître que Dieu est juste. Sixièmement, il y a l'effet. Le résultat n'est pas identique pour tous. Chacun aura la part, Saint Matthieu 24, verset 51, la part plus ou moins grande qui est sienne. Par exemple, Sodome et Gomorre seront traités moins rigoureusement que les villes qui auront rejeté le message du royaume des cieux. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 15. Tyr et Sidon jouiront de plus d'indulgence que Chorazin et Bethsaïda. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 21 et 23. La terre de Sodome sera jugée avec moins de sévérité que Capernaum, la cité de Jésus. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 23 et 24, et le chapitre 4, verset 13 de Saint Matthieu. La reine de Séba et les hommes de Ninive eux-mêmes condamneront les contemporains du Christ. Saint Matthieu, chapitre 12, verset 42 et 41. Tout cela peut nous sembler invraisemblable, mais si vous relisez attentivement les indications que je vous donne de la Bible, eh bien vous verrez que ça tient debout. C'est sévère. Voyez-vous, ce ne sera pas un système socialiste par un président qui fait des lois nouvelles pour que les abominations à l'Éternel soient permises, mariage homosexuel et tout ce qui va avec. Pourquoi pas l'inceste et pourquoi pas permettre aux pédophiles de faire ce qu'ils font. Et tout le reste, vous savez qu'il existe même des êtres humains, cela me fait mal de vous le dire, et vous avez le droit de ne pas me croire, qui ont des rapports sexuels avec des animaux. Toutes ces abominations, croyez-moi, seront punis très sévèrement. Tous les faussement pieux, et cela existe, tous les coups raides, orgueilleux, s'entendront dire « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, c'est-à-dire ses démons. » Saint Matthieu, chapitre 25, verset 41 et chapitre 7, verset 23. Néanmoins, tous ne seront pas condamnés. La doctrine selon laquelle aucun de ceux qui se tiennent devant le trône, devant le grand trône blanc, ne sera sauvé, semble aller à l'encontre des Saintes Écritures. Voyons ce que dit la Révélation, l'Apocalypse. Il est dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Or, si personne ne devait être sauvé, l'apôtre n'aurait-il pas écrit « Parce que personne ne fut trouvé dans le livre de vie, ils furent tous jetés dans l'étang de feu. » Les nations converties pendant le millénium n'ont pas été jugées avant, et donc ils doivent paraître devant ce trône. Lorsque ailleurs l'Apocalypse dit, la Révélation pour les anglophones, que l'Apocalypse dit que les morts seront jugés d'après leurs œuvres, il faut se souvenir que la foi elle-même est une œuvre. L'œuvre qui est conforme à la volonté de Dieu, comme Christ l'a déclaré, c'est ici l'œuvre de celui qui m'a envoyé, que vous croyez en lui. C'est donc sa réponse à la question « Que devons-nous faire afin de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu ?» Saint Jean, chapitre 6, versets 28 et 29. Les autres œuvres sont de deux natures. D'une part, les œuvres de la chair et de la loi accomplies par les irrégénérés, mais qui ne peuvent être justifiés devant Dieu. Romains 3, verset 28. D'autre part, les œuvres de la foi, qui selon les Saintes Écritures et en dépit de la grâce, sont requises de la part des justifiés. Tite, chapitre 2, verset 7 et le verset 14. Chapitre 3, verset 1 et 8. Et le verset 14 de nouveau, et Jacques, chapitre 2, verset 16. Et septièmement, la seconde résurrection. L'Écriture enseigne pleinement une résurrection corporelle des perdus. Apocalypse 20, verset 12. Elle l'appelle la résurrection des injustes. Actes des apôtres, chapitre 24, verset 15. C'est la résurrection pour le jugement. Saint Jean 5, verset 29. Ou la résurrection pour l'opprobre et la honte éternelle. Daniel 12, verset 2. Cette résurrection-là est aussi l'œuvre du Christ. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 et 22, et Saint Jean, chapitre 5, versets 26 à 29. Elle est l'introduction à une autre mort, la seconde mort. Apocalypse, chapitre 20, verset 14, chapitre 2, verset 11, et leur sort est dépeint par l'Écriture sainte en de terribles images. Tribulation et angoisse. Notez bien les citations que je vous donne. Romains chapitre 2 verset 9, des pleurs et des grincements de dents. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 13, et chapitre 25, verset 30. Destruction éternelle, c'est pas moi qui le dis. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. La fournaise, Matthieu 13, verset 42 et verset 50. Ajoutez le psaume 21, verset 9, et Ésaïe, chapitre 30, verset 33. La prison et l'abîme, selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 25, et deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. L'enfer et les tourments éternels, Saint Matthieu, chapitre 25, verset 46. On parle du ver qui ne meurt jamais, Saint Marc, chapitre 9, verset 48. On parle du feu qui ne s'éteint jamais, Saint Marc, chapitre 9, verset 43, verset 48. Donc Saint Marc, chapitre 9, vous l'avez compris, verset 43 et le verset 48. Vous pouvez ajouter Saint Matthieu, chapitre 25, verset 41. On parle de l'étang de feu et de soufre. Et cela, dans Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 20, verset 15 et le verset 10, ainsi que toujours Apocalypse, chapitre 19, verset 20. En effet, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux, chapitre 10, verset 31, et notez aussi, pour terminer, Saint Matthieu, chapitre 26, verset 24, et à nouveau Revelation, Apocalypse, chapitre 14, verset 11. Chers amis, tout cela vaut la peine de réécouter tranquillement, parce que c'est apparemment impossible de tout mémoriser. Chers amis, avant de terminer par la prière, parfois, pas toujours, seulement de temps à autre, on peut recevoir dans notre cœur et esprit, surtout si nous nous donnons la peine de méditer d'une façon diligente, sérieuse, la sainte parole de Dieu, on peut donc recevoir quelque chose à transmettre à ceux qui écoutent. Donc, on doit mettre toute son espérance et toute sa confiance en Dieu seul. Seigneur, quelle est ma confiance en cette vie? Et quelle est ma plus grande consolation au milieu de tout ce qui s'offre à mes regards sous le ciel? N'est-ce pas toi, Seigneur, qui est mon Dieu, dont la miséricorde est infinie? Où ai-je été bien sans toi et avec toi? Où ai-je pu être mal? J'aime mieux être pauvre à cause de toi. Ou, en effet, être riche sans toi? J'aime mieux être avec toi, voyageur sur la terre, que de posséder le ciel sans toi, où tu es là, et le ciel, et la mort et l'enfer sont où tu n'es pas. Seigneur Dieu, tu es tout mon désir. Et c'est pourquoi je ne puis, loin de toi, que soupirer, gémir et prier. Je ne puis me confier pleinement que en toi, ni espérer dans mes besoins de secours que de toi seul, ô mon Dieu. Tu es mon espérance, ma confiance, mon consolateur toujours fidèle. Tous cherchent leur propre intérêt. Toi seul, tu ne cherches que mon salut et mon avancement, et tu disposes tout pour mon bien. Même quand tu m'exposes à beaucoup de tentations et de peines, c'est encore pour mon avantage, car tu as coutume d'éprouver ainsi ceux qui te sont chers. Je ne dois pas moins t'aimer ni te louer dans ces épreuves, même si tu me remplissais des plus douces consolations. C'est donc en toi, Seigneur mon Dieu, que je mets toute mon espérance et tout mon appui. C'est dans ton sein que je dépose toutes mes afflictions et toutes mes angoisses, car je ne trouve que faiblesse et inconstance dans ce que je vais ou que je vois hors de toi. Il n'est point d'amis qui puissent me servir, point de protecteur qui me soit de secours, ni de sage qui me donne un conseil utile, ni de livre qui me console, ni de trésor assez grand pour me racheter, ni de lieu assez secret pour m'offrir un sûr asile, si tu me daignes toi-même me secourir, de m'aider, me fortifier, me consoler, m'instruire et me prendre sous ta garde. Car tout ce qui semble devoir procurer la paix et le bonheur n'est rien sans toi, et réellement ne sert de rien pour rendre heureux. Tu es donc le principe et le terme de tous les biens, la plénitude de la vie, la source inépuisable de toute lumière et de toute parole, et la plus grande consolation de tes serviteurs. Et d'espérer, c'est d'espérer uniquement en toi. Mes yeux sont élevés vers toi, en toi je mets toute ma confiance, mon Dieu. Père des miséricordes, sanctifie mon âme, bénis-la de ta céleste bénédiction, afin qu'elle devienne ta demeure sainte, qu'elle devienne le siège de ton éternelle gloire, et que dans ce temple où tu ne daignes pas d'habiter et qu'il n'y ait rien qui offense tes regards, car je veux regarder à toi seul. Regarde-moi, Seigneur, maintenant, dans ton immense bonté, et selon l'abondance de ta miséricorde, exauce la prière de ton serviteur misérable et exilé loin de toi. Protège et conserve l'âme de ton pauvre serviteur au milieu des dangers de cette vie corruptible, que ta grâce l'accompagne et le conduise par le chemin de la paix dans la patrie de l'éternelle lumière. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Prions. Ô Dieu de notre salut, Tu as daigné accorder à tes faibles créatures des jours de grâce et de repos, destinés à fortifier et sanctifier leur âme. Mais qu'il est douloureux de penser combien peu elles savent apprécier l'étendue d'une telle faveur. Cette journée que tu t'es réservée, Seigneur, n'est-elle pas pour d'immenses multitudes un jour de rébellion contre toi et d'outrage à ta loi sainte? Et pour ceux-mêmes qui te servent et qui font profession de t'aimer, n'est-elle pas une occasion de t'offenser? Oui, nous devons le sentir avec douleur et le confesser avec confusion, plus que dans tout autre jour, nous sommes coupables aux yeux du Seigneur, que chacun de nous rende sérieusement en soi-même, examine en rentrant en soi-même, examine donc ses voies et les secrets mouvements de son cœur, de notre cœur, et que chacun de nous se demande s'il a réellement servi son Dieu, s'il lui en a consacré tous les instants, s'il a pris un sincère plaisir à lui offrir son hommage et ses adorations, s'il a fait véritablement ces délices du culte saint auquel tout fidèle est appelé à participer. Comment, au retour de chaque dimanche, ne nous disons-nous pas « Peut-être est-ce la dernière fois que je puis te rendre grâce, ô Dieu, dans l'assemblée de tes enfants, car notre vie peut être bornée par tes décrets éternels, et à chaque heure, la mort peut nous surprendre. Oui, qui vaincra la légèreté, l'endurcissement de nos cœurs? Qui nous rendra sérieux et nous apprendra à ne plus profaner le saint jour du Seigneur? Ta grâce seule, ô notre Dieu, l'influence de ton Saint-Esprit pénétrant dans les profondeurs de nos âmes, que nous sachions donc te supplier de ne point nous refuser ces dons précieux, qu'à cette heure nous sachions nous humilier dans le sentiment d'une véritable repentance et que nous puissions dire avec sincérité et bonheur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, réjouissons-nous en elle, exauce nos humbles prières, Dieu puissant, au nom et par les mérites de Jésus-Christ notre Sauveur, ton Fils bien-aimé, en qui seul est la vie éternelle. Amen. Amen. Et chers amis, il n'est pas défendu de réécouter un tel message, étude plutôt, pour mieux la comprendre. À demain matin, Dieu voulant, la suite de cette série. À bientôt donc, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, très chers amis.